Il y a un premier travers qui consiste à vouloir avoir un savoir complètement encyclopédique. C'est-à-dire que si vous regardez les programmes de seconde, première, terminale de sciences économiques et sociales, donc lycée général, on a eu la chance d'avoir Philippe Aguillon comme président du groupe d'experts. Philippe Aguillon était très intéressant et très profond, sauf que dans le programme, on veut tout faire, tout savoir, tout apprendre, tout décrire. Un exemple simple, c'est le commerce international. Donc, il y a un énorme chapitre sur le commerce international. On va jusque dans l'intra-branche, le détail. On pourrait juste faire l'avantage comparatif de Ricardo. Non, non, non. Quand j'ai posé la question, mais est-ce qu'on pourrait dire aux élèves comment apprendre à lire une balance des paiements? Ah ben non. Pour le coup, on n'avait plus le temps. Donc, ça ne figure pas dans le programme. Mais les échanges entre pays semblables avec des complications sur les échanges intra-branches existent. La deuxième plaie, c'est une plaie qui consiste à persuader l'élève qu'on peut tout dire à condition de bien l'argumenter. Donc en économie, on peut tout dire. On peut tout dire que, je sais pas, moi, les inégalités augmentent ou les inégalités baissent ou la pauvreté augmente, la pauvreté baisse, le chômage et le fait des firmes multinationales. On peut tout dire. Mais finalement, on apprend à argumenter et de ce fait, les programmes, et bien entendu une partie des livres de scolaires, sont pleins de fausses argumentations et remettent sans cesse en péril des éléments fondamentaux de savoir. Alors bon, des choses classiques, évidemment, hein. Par exemple, la concurrence pure et parfaite, c'est la cible, évidemment, de toutes les critiques. C'est quelque chose qui n'existe pas, donc qui n'est pas utile. Donc, vous voyez, les économistes mainstream se sont fourvoyés. Et d'ailleurs, dans un des chapitres premiers, hein, sur la concurrence pure et parfaite de première, vous avez immédiatement, d'abord en exercice, j'ai eu l'occasion de dire à certains, en exercice de la concurrence pure et parfaite, vous devez étudier le marché du pétrole. Par définition, est un marché de concurrence pure et parfaite, comme chacun le sait, et le marché du tabac. Donc, en exemple, pour analyser la concurrence pure et parfaite, on a deux marchés qui ne sont pas de concurrence pure et parfaite. Et puis après, vous avez un beau tableau où on voit apparaître dans les différentes structures de la concurrence, bon, la concurrence pure et parfaite, la concurrence, le monopole, l'oligopole, et puis un nouveau concept, l'oligopole contrarié. Donc, c'est un concept franco-français. On s'imagine qu'en économie, on peut inventer des concepts comme ça et puis les balancer dans un chapitre de manuel du secondaire. Et à cette occasion-là, quand je l'ai raconté à certains d'entre vous, j'avais regardé une trace sur Internet où il y avait des étudiants qui faisaient des mails dans un tchatch incroyable, effrénés pour savoir ce que c'était, comment traduire en anglais l'oligopole contrarié, puisqu'évidemment, personne ne trouvait le terme en anglais. Enfin, on a un petit peu ces choses-là, et puis on a aussi, vous verrez dans les manuels, souvent on a une approche empirique, quoi. On ne veut pas donner l'air de descendre du ciel. Et donc, il y a par exemple, dans un des livres de seconde, qui s'appelle « Découvrir en donnant son avis ». Alors, suit une liste d'affirmations qui, de façon subliminale, doivent s'enchaîner les unes les autres. Alors, premier élément, les économistes peuvent prévoir les crises économiques. Oui, non. Alors, bien entendu, le professeur va s'échiner, si je puis dire, à dire que les économistes n'ont jamais pu prévoir les crises économiques, hein, comme les médecins n'ont pas pu prévoir la pandémie presque du virus actuel. Et donc après, vous avez l'économie n'est pas une science. Oui, non. Alors forcément, si vous dites les économistes ne peuvent pas prévoir les crises, et que vous dites la science c'est prévoir, ben forcément l'économie n'est pas une science. Et donc, vous avez à cocher comme ça. En fait, on est dans l'argumentaire, si vous voulez, de l'avis. On va donner son avis, et on n'est pas dans l'argumentaire scientifique. Et on est sans arrêt dans ce genre de choses. Et d'ailleurs, je mettais tout à l'heure au tableau un petit dessin qui se trouve, qui n'est pas de moi, je suis désolé. Vous avez à la page 7 du manuel en question de SES seconde, hein, donc ça, vous avez « À quoi reconnaît-on un économiste ?» Alors vous voyez, les économistes, c'est des gens qui parlent abscons, on ne comprend pas ce qu'ils parlent, on ne comprend pas ce que ça veut dire, Et ils sont enfermés dans une tour d'ivoire et ils sont habillés comme des patrons. On vous dit retrouver celui qui n'est pas économiste. Alors Philippe Nemo a eu un petit peu de mal parce qu'il ne pensait pas que ce personnage appartenait au tableau. Mais alors effectivement, c'est lui, c'est le gars normal qui essaye de comprendre la société alors qu'il a devant lui des pseudo-experts qui ont des cases dans lesquelles elles sont enfermées. Et alors par contre, le sociologue, mais bon, vous savez qu'à peu près 80% peut-être, enfin je me trompe peut-être, en disant entre 70 et 80% des jeunes qui passent l'agrégation, qui viennent quand même de sociologie, parce que l'ENS, tout ça, forme plutôt des sociologues. Alors le sociologue, lui, il a bonne presse, il n'est pas enfermé dans des concepts à la gomme comme la concurrence pourrait en faire. Il a des cheveux, il est normal, il a des lunettes, il a un nom, c'est monsieur et madame Pinson, là, ou Pinson Charlot, hein.
Les Pinson Charlot,
il a un nom, ils font des enquêtes, bon, ils enquêtent sur les riches, donc ils vont dans les mêmes lieux de vacances que les riches, mais c'est parce qu'ils enquêtent sur les riches, et donc on a là une approche tout à fait sympathique de la réalité économique et sociale, alors que de l'autre côté, on a une approche qui sert à peu de choses, enfin en tout cas, tel que c'est vu par le dessin. Et là, les jeunes de seconde sont confrontés immédiatement à ce genre de message quand même, qui moi me navre un peu. Donc on peut tout dire à condition de bien argumenter. Dans ce même ordre d'idées, moi j'ai trouvé, c'est pas forcément le cas, je veux pas assassiner l'ensemble des manuels, mais j'ai trouvé que les manuels sont parsemés d'erreurs graves sur la science économique. Et là, pour le coup, la fabrique des programmes n'a aucun moyen, puisque c'est la liberté d'expression. Donc on s'imagine que dans la diffusion du savoir, eh bien, les gens sont autorisés à écrire n'importe quoi dans des manuels scolaires qui, normalement, devraient servir à former les jeunes. J'avais aussi alors, un président d'un groupe d'experts qui est venu nous exposer son programme d'économie de STMG et qui disait sur la consommation, à un moment donné, il y avait « Seuls les hauts revenus peuvent épargner parce qu'ils ont suffisamment d'argent. » Je me suis dit, quand même, enfin moi, quand j'ai lu ça, je suis quand même allé voir INSEE, hein, je suis allé voir INSEE et j'ai regardé les pourcentages d'épargne en fonction des déciles de revenus et on voit très bien que les plus bas revenus épargnent 7% en fait de leurs revenus, effectivement, les plus hauts revenus, 28%. Et j'ai quand même dit au président du groupe d'experts, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Donc on a changé la formulation, mais le plus grave, c'est que cette formulation est arrivée quand même jusqu'à nous, alors que le groupe d'experts, comme vous le savez, certains ont participé à les groupes d'experts, sont au moins 10 ou 15, se réunissent 20 fois dans l'année, enfin il y a... On peut cogiter, on peut revenir sur des phénomènes, on peut élaguer les scories, enfin il y a quand même... Voilà. Bon, je vous passe les détails. Une autre petite plaie, mais sur laquelle je ne vais pas beaucoup insister, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une très grande difficulté à lire et à comprendre l'anglais, en fait. Hein, on est un monde fermé, la France, l'Hexagone, et donc du coup... Peu de personnes, en dehors des enseignants-chercheurs qui ont des abonnements gratuits à Gistor ou autres, peu de personnes ont la capacité, notamment soit les professeurs eux-mêmes, soit les inspecteurs dans l'inspection générale, de se confronter avec l'état de la science via les journaux scientifiques. Enfin, il y a plein de journaux scientifiques comme l'Economic Journal of Perspective ou le Journal of Economic Literature qui font des surveys sur l'état d'un sujet. Hein, donc nous, parfois on s'en régale quand on n'est pas spécialiste justement d'un sujet, on regarde ça, mais là il y a une rupture totale, et je me souviens avoir demandé plusieurs fois aux inspecteurs généraux, mais qu'est-ce qu'ils font en Angleterre, qu'est-ce qu'ils font en Allemagne, comment ils apprennent les bases que nous on essaye de mettre en programme, je n'ai jamais eu de... Alors il y a une quatrième plaie, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre, qui est l'idéologie ambiante et l'angle... en permanence en termes normatifs et pas positifs, mais on pourra revenir là-dessus. Il y a une cinquième plaie qui est la répétition à outrance dans les programmes des thèmes mondialisation et inégalité. Alors là, on trouve ça en géographie. La géographie s'est emparée de la mondialisation. Donc les programmes de géographie sont des programmes d'économie, enfin, sauf qu'on voit un petit peu plus la notion de transport ou d'espace ou de flux. Mais on a très très fortement cette idée selon laquelle la mondialisation génère des inégalités croissantes. On n'a jamais, moi j'ai essayé d'insérer ce genre de graphique dans la discussion, mais jamais on a la baisse de la pauvreté absolue dans le monde depuis trois siècles, mettons, et le fait que malgré le fait qu'on arrive à 8 milliards d'individus, eh bien, les personnes qui sont en dessous d'1,90 $ en pauvreté absolue, on baisse assez fortement. Et donc jamais on se pose ce problème, ce type de problématique. Hein, on se pose tout un tas d'autres problèmes. Les inégalités vont croissantes et on est constamment dans cette rhétorique sans avoir la possibilité d'en sortir. Donc là-dessus, je pourrais dire d'autres choses, mais je passe aussi rapidement. Donc sixième plaie, la déconnexion entre les mathématiques, statistiques et sciences économiques. Bon, ça, on a deux grands spécialistes là-dessus, donc je leur laisse l'honneur. Et septième plaie, le rejet de l'économie comme science et la croyance que les modèles sont au service d'une démarche, partisane de l'économie. Bon, en fait, il y a quand même un tas de mécanismes. Vous n'avez pas besoin d'être de gauche, de droite, du centre, pour quand vous étudiez un phénomène de prix et de concurrence, vous n'avez pas besoin d'avoir... vous essayez d'expliquer ce qui est, avant de savoir éventuellement ce qui devrait être. Et si vous ne comprenez pas ce qui est, c'est fichu pour le jugement sur ce qui devrait être, puisque vous avez observé les choses de travers. Hein, donc ça, et alors ça, malheureusement, il y a plein de choses comme ça en terminale, en tout cas dans d'autres, dans un certain nombre de programmes. La huitième plaie, c'est l'incapacité de voir les défaillances des États et ne cibler que les défaillances des marchés. Alors là, les défaillances des marchés, bon, on a bien compris. Ce n'était pas le cas il y a, mettons, une dizaine ou une vingtaine d'années, mais alors là, les défaillances des marchés, pourquoi le marché ne marche pas et comment il faut que l'État intervienne. Alors là, c'est des tartines, vous verrez dans les manuels, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, des chapitres entiers. Je dis, mais pourquoi on ne parlerait pas de défaillance des États ? On a fait l'analyse à la fois de la politique d'économie publique, l'analyse du comportement des États. Enfin, il y a une analyse économique maintenant qui est quand même bien connue des défaillances des États. Le fait que les États, ce soit un millefeuille avec des systèmes complètement contradictoires, enfin, pour avoir été directeur général ou recteur ou même élu maire adjoint dans ma commune et tout, on voit bien que tout ça, ça s'enchevêtre, ça s'entrechoque. Et vous avez vu, il y a quelques années, Areva, quand le monde faisait la une, Areva est démantelé. Enfin, Areva était quand même possédé, je sais pas, à 80% par l'État. Et on s'aperçoit après que la présidente d'Areva se bouffait le nez avec le président d'EDF depuis très longtemps. Les gens se plantaient des poignards dans le dos. Enfin, il y a des défaillances des États, sans parler de la corruption, sans parler de la gouvernance publique, enfin, qui sont des choses essentielles, hein, à mon avis, pour comprendre les dysfonctionnements des systèmes économiques. Et pourquoi des pays n'arrivent pas à se mettre sur des sentiers de croissance. Bon, donc... ça, c'est un grand manque. La neuvième plaie, c'est l'absence du statut de l'économiste et des compétences qui doivent aller avec. Alors ça, c'est quelque chose de plus général. Quand vous êtes architecte, vous ne pouvez pas signer un plan si vous n'êtes pas architecte. Avant, c'était DPLG, maintenant, c'est DMO. Si vous n'êtes pas architecte certifié, pouvant signer un plan... Et quand vous bâtissez des immeubles, selon un certain nombre de règlements, vous avez besoin que ça soit qu'il y ait une intervention d'architecte. En psychologie, c'est pareil. En psychologie, vous ne pouvez pas mettre une plaque « Monsieur un tel, psychologue », si vous n'avez pas une maîtrise, à peu près, si je me souviens bien, de psychologie, vous ne pouvez pas. Bon, en économie, vous pouvez sortir de nulle part et aller nulle part. Vous pouvez mettre votre plaque d'économiste. Et puis, bien entendu, si... vous pouvez faire ce que vous voulez et participer à tous les débats possibles et imaginables. Et ça, c'est... bon, à la fois, il y a un problème de titre, mais il y a un problème de compétence. C'est-à-dire que le secondaire, comme l'université, ne sont pas orientés vers les compétences. Vous pouvez être, avoir une maîtrise d'économie et pas savoir calculer un taux d'endettement ou un ratio quelconque. Et vous, pourtant, vous, et donc du coup, ça fait appel à la théorie du signal sur le marché du travail. Quand un patron va vous embaucher, bah, d'accord, vous avez un diplôme d'économie, mais donc qu'est-ce qu'il vaut derrière? Par contre, si vous êtes diplômé de Toulouse avec NSAE, bah, les gens sauront parfaitement ce que vous êtes capable de faire. Donc vous trouverez de l'embauche tout de suite.